Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 9 juillet 1990.
Ensemble, essayez de comprendre ce que représente la vision théologale sur le corps humain. Je vois qu'il y a des retardataires. C'est pas de leur faute, je sais. Regardez bien, c'est une procession. J'attends. Et c'est une mise au point, vous savez. Quand il y a la communauté qui a son horaire, il y a les conférences, et là, il peut y avoir des quantités de choses qui ne sont pas toujours en harmonie, ne vous inquiétez pas. Le second jour, ce sera rodé. Alors, avant de regarder ce point de vue, je voudrais préciser avec vous ce que nous allons faire durant ces 5 jours, et la première journée se termine, c'est le regard descriptif en nous servant, et on peut se servir de toute la science, le regard philosophique et le regard théologique. Et il faut bien préciser ce que représentent ces 3 regards différents. Il ne peut pas y avoir de conflit entre la science, la philosophie et la théologie. Si on est très précis, si on respecte parfaitement les lumières différentes, la lumière de la science, la lumière de la philosophie, la lumière de la théologie. Mais il faut savoir comment l'homme peut, de fait, il le sait. Un vrai savant sait, qui fait de la science biologique. Un vrai philosophe sait qu'il fait de la philosophie. Et un théologien sait qu'il fait de la théologie. Mais 3 vitesses, il y en a beaucoup plus, hein, parce que parmi les sciences, il y a des quantités de vitesses différentes. Je crois que c'est très important, ça. Et c'est toujours très enrichissant, du reste. Vous savez, quand vous voulez regarder une petite église romane ou une très belle statue, vous aimez avoir des points de vue différents. Vous n'avez pas qu'un seul point de vue. Et chaque point de vue est enrichissant. Et c'est toujours la même statue que vous regardez, ou c'est toujours la même église que vous regardez. Il y a une réalité qu'on regarde, l'homme. On la regarde au niveau science biologique, au niveau proprement philosophique et au niveau théologique. Alors, qu'est-ce que regarde le biologiste? Je me souviens, je prends toujours cet exemple parce que ça m'a beaucoup frappé. Si on avait pu le voir durant ces quelques jours, ça aurait été très intéressant. Un professeur de biologie, professeur de médecine à Paris, que j'aime beaucoup, celui qui a fondé l'Institut de la vie, avait fait il y a quelques années, à la Part-Dieu, foyer de charité, une conférence devant un public de messieurs très savants, polytechnicien. J'étais présent. Ça faisait partie du jeu. Il devait exposer la politique de la vie selon la perspective de la science biologique. Les résultats. Ensuite, et ça a duré 3 heures. Heureusement qu'il y a eu le repas entre deux. Et après le repas, on me demande de dire le point de vue philosophique sur le vivant et la vie. Et ensuite, le point de vue théologique. Ça a duré moins de 3 heures chaque exposé. Mais pour le savant, c'est toujours beaucoup plus étendu, hein. Alors, évidemment, tous les résultats qu'il donnait de la science moderne aujourd'hui, je prends exprès cet exemple parce qu'il est vécu. J'aime bien les choses comme ça, qui sont vécues, en dépassant le vécu, mais en voyant le vécu. Tous les résultats qu'il donnait dépendaient de ses expériences, de ses expérimentations, de son laboratoire ou de laboratoire des autres. C'était servi du microscope électronique. Microscope. J'ai commencé, moi, en tant que philosophe après, dire pourquoi le philosophe ne se sert pas du microscope. Si c'est par fidélité pour Aristote, c'est de la bêtise. Si c'est de la fidélité pour saint Thomas, c'est de la bêtise. Pourquoi le philosophe ne prend-il pas cet instrument qui permet de voir des quantités de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu? C'est vrai, c'est intéressant de se poser la question. Il ne faut pas croire, parce que la science existe, que la philosophie n'existe plus. Je sais que beaucoup de personnes croient ça. C'est ce qu'on appelle en philosophie le positivisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de connaissance, la connaissance scientifique, celle qui relève de la mesure et des mesures. Seul ce qui est connu scientifiquement est valable. Je dis non. Parce que le savant, il y a des quantités de choses qu'il ne connaît pas. Je donne tout de suite l'exemple très simple de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que l'éthique. On pourra vous donner une conférence sur la bioéthique. Vous verrez ce que ça représente par rapport à l'éthique philosophique. Et là, vous verrez bien. Et ça sera intéressant pour vous. Parce qu'il y a des confrontations actuelles qui sont extrêmement importantes à bien voir. Je peux parler de l'âme. On en parlera au plan philosophique. Le biologiste n'en parle jamais. Il ne peut pas en parler. C'est absolument impossible. Parce que l'âme ne peut pas se saisir par le microscope, par la mensuration. Donc je constate qu'il y a des quantités de domaines que le savant ne peut pas saisir. Et il y a une quantité de domaines que le philosophe ne saisit pas et que le savant saisit. Il doit donc y avoir une complémentarité. Quel est le domaine que saisit le savant et que le philosophe ne saisit pas? Quel est le domaine que le philosophe saisit et que le savant ne saisit pas? C'est quand même intéressant de se poser la question par rapport au corps, puisque c'est ça que nous étudions. Le domaine que le philosophe ne saisit pas et que le savant saisit, c'est justement grâce au microscope, il peut faire des coupes qui lui permettent de connaître quelque chose que le philosophe qui ne se sert pas du microscope ne saisit pas. On peut grossir l'objet grâce au microscope d'une façon prodigieuse. Tandis que le philosophe, il se dit, j'essaie non pas de rester au sens commun, comme on dit de temps en temps, la philosophie c'est le bon sens. Non, non, pas du tout. Et il essaie de saisir le vivant de l'intérieur. Parce que je sais que j'ai un privilège unique pour saisir les opérations vitales. Je peux les saisir de l'intérieur. Les opérations vitales de l'intérieur, je pense. Le biologiste ne peut pas saisir par son microscope le fruit de ses connaissances biologiques. Le fruit de ses connaissances biologiques sont saisis par sa pensée de savant. Et le philosophe s'intéresse à cette connaissance. J'espère que vous saisissez là quelque chose qui est très important à saisir. On dira au plan philosophique, vous aurez l'occasion de bien le voir, au plan philosophique, que le philosophe essaie d'avoir un contact direct avec la réalité par ses expériences externes, par ses expériences internes. Par ses expériences externes, il touche, il voit, il entend, il saisit les sensibles propres. Petite distinction très importante que le philosophe fait et que nous pouvons tous saisir du reste. Les sensibles propres, c'est ce que chaque sens saisit en propre. L'œil saisit la lumière. Il y a une très belle lumière, hein, le soir. Et je suis frappé de cette lumière. Chaque soir, je touche le matin mon bol de café pour voir s'il est chaud. Quelquefois, si j'ai de la glace, je suis heureux quand il fait très chaud d'avoir une glace qui n'est pas tiède. Le chaud et le froid. Et ainsi de suite, j'entends les sensibles propres. Chercher les sensibles propres, c'est très bon comme petite réflexion. Le goût. Les sensibles propres. Les sensibles propres sont indivisibles. Et à côté des sensibles propres, il y a les sensibles communs. Et les sensibles communs sont communs aux différents sens. Le mouvement, le repos, la grandeur, le nombre, la figure. Il y a 5 sensibles communs. Le mouvement. Vous pouvez voir un avion qui circule. Vous entendez le bruit. Pendant la guerre, on entendait le bruit des avions sirènes. Quand ils avaient vu dans la voie est, ils s'approchaient. Vous entendez le pas de quelqu'un, le pas d'un brigand, le soir. Ça vous fait peur. Il s'approche et vous cachez derrière l'arbre. Et vous entendez son pas. Vous voyez bien qu'il marche. Vous entendez le mouvement, c'est très curieux. Vous voyez le mouvement. Vous touchez le mouvement d'une meule qui tourne à toute vitesse. Vous goûtez le mouvement. Quand vous mettez un bonbon dans votre bouche, hein, vous le faites rouler. Vous pouvez sentir aussi un gaz, le mouvement. Il s'approche, il s'éloigne. Curieux, sensible. Les cinq sens peuvent toucher le mouvement. C'est pas propre à un sens. C'est la même chose pour le repos, la grandeur. C'est sensible comme un. Or, ces sensibles communs sont divisibles et mesurables. Alors faites cette petite distinction. Hein. Les sensibles communs, je vous donne ça parce que c'est très important. Ce sont des choses qu'on ne dit plus jamais. On ne dit plus jamais ça. Alors que c'est capital pour comprendre la différence entre la connaissance philosophique, la connaissance pratique et que la connaissance scientifique. Les sensibles communs et les sensibles propres. Alors prenez comme sensible propre tout simplement la lumière. La lumière du soir. Les lumières du soir ou l'aurore, la lumière du matin, la lumière du plein midi. Scientifiquement, est-ce que vous faites une différence entre la lumière du soir, la lumière du matin, non, parce que vous saisissez, c'est de la lumière, uniquement le soubassement de la lumière, le mouvement. Vous réduisez la lumière au mouvement, donc vous ne saisissez pas la lumière dans ce qu'elle est propre pour l'œil. Donnez la définition de la lumière du physiste, de la science physique à un artiste peintre. Ce n'est pas ça du tout la lumière. La lumière, le vécu de la lumière. La lumière d'Athènes, qui est tellement différente de la lumière de Jérusalem. Quand j'allais souvent à Jérusalem, toujours au retour, j'essayais de m'arrêter à Athènes pour avoir le contraste Jérusalem-Athènes. Ce sont deux lumières tellement différentes. Et poétiquement, elles sont très très différentes. Demandez aux physiciens quelle est la différence entre la lumière d'Athènes et la lumière de Grèce. Non, non, c'est toujours la lumière, quoi. Il faudra voir la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Le mouvement. Ce qui intéresse l'artiste, c'est la qualité de la lumière. Ce qui intéresse le philosophe, c'est la qualité de la lumière. Ce qu'est la lumière. La lumière est toujours qualitative. Une lumière tiède, terne, c'est pas la lumière, c'est la vitesse de la lumière. Vous pouvez faire ça pour tous les sens. Je ne fais pas, vous n'avez qu'à le faire. C'est intéressant, petite recherche. C'est excellente. Premier pas dans la philosophie. Faire cette distinction, c'est le premier pas, vous savez, cette distinction entre les sensibles propres et les sensibles communs. C'est une distinction que le vieil Aristote a faite. Et que Descartes, notre cher Descartes, notre grand philosophe Descartes, il dit, ah, les sensibles propres, non, 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 c'est subjectif. La seule chose qui est objective, les sensibles communs. Parce que c'est mesurable. C'est scientifique. Vous voyez Descartes, qui se veut philosophe. Il tue la philosophie. Je crois. Il ne regarde que les sensibles communs. Les seules choses mesurables. Alors, le microscope, qu'est-ce qu'il fait? Il agrandit les sensibles communs. Et les sensibles propres disparaissent. Ça échappe au microscope. Ils ont de la veine. Ça, ils échappent. tous les sensibles professeurs. Ils sont au-dessus. Ils sont saisis par les sens propres qui peuvent détecter ça. C'est quand même quelque chose de très curieux, ça. Mais relativiser les instruments scientifiques, c'est pas si mal. Enfin, il y a des choses qui leur échappent. Les sensibles propres. Évidemment, si vous avez l'a priori de dire « seul est objectif ce que Descartes dit », c'est-à-dire les sensibles communs, évidemment, vous direz « les sensibles propres ». Mais avant Descartes, quelqu'un de plus intelligent que Descartes, Aristote. Vous avez dit ça d'a priori, mais je sais bien que c'est d'a priori de dire que Aristote est plus intelligent que Descartes. Descartes et Aristote, je les aime tous les deux, mais Aristote plus encore. Parce que de fait, il dit des choses qui vont beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que je fais la comparaison parce que Descartes lui-même l'a fait. À un moment donné, Descartes dit « Je tourne le dos à Aristote. » Pas à cause de ça. Ça, il l'a jamais compris. Mais à propos des interrogations, pour Aristote, la première interrogation, c'est d'abord « Est-ce que ça existe ?» Puis après, « Qu'est-ce que c'est ?» Et Descartes dit l'inverse. « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ?» C'est très curieux, hein. Et là, il dit « Je tourne le dos à Aristote. » C'est intéressant, vous savez, de faire le dialogue entre Descartes et Aristote. Il y aurait des choses intéressantes à faire. Le dialogue entre Aristote et Descartes. Ils doivent s'amuser de temps en temps, si tous les deux sont au ciel, de se dire... Le philosophe tient compte des sensibles propres et toute son expérience tient compte des sensibles propres. Et les sensibles propres ne peuvent pas être captés par le microscope. Impossible. Le microscope ne fait que augmenter d'une façon extrême tout ce qui est divisible, tout ce qui est mesurable, tout le mesurable. Uniquement le mesurable. Le reste, non. C'est pour ça que le philosophe ne se sert pas du microscope électronique. Il ne s'en sert pas. Il dit très bien aux savants, vous saisissez un domaine que je ne saisis pas, mais tant mieux, ça m'intéresse, vos découvertes. Je vais voir si ça va modifier beaucoup ma philosophie. Ça, l'intérêt. Voyez, tout ça, le mesurable, c'est lié à la quantité. C'est mesuré à la quantité. C'est la quantité qui est mesurable. Parce que la quantité égale le divisible. Et c'est pour ça que le savant va développer énormément tout cet aspect quantitatif, tout cet aspect mesurable. Évidemment, dans ce mesurable, ce n'est pas la quantité pure. Il y aura toutes les dispositions. Il y aura un ordre. Il y aura des relations. Tout ça, c'est quand même des déterminations, ce n'est pas de la pure quantité. Mais ce qui est connu, c'est la quantité. Qu'on ordonne. On harmonise. Là, il y a une petite réflexion importante, de critique, très importante à comprendre ça. Mais ce qu'il y a de plus formel dans la science, c'est la relation, c'est l'ordre. C'est pour ça que le domaine des mathématiques sera le domaine des relations et de l'ordre. Mais la réalité physique, le corps, notre corps, il y a des sensibles propres et puis il y a des sensibles communs. Voyez, ça très intéressant, hein, se demander qu'est-ce que c'est que le corps dans la perspective du sensible commun. Qu'est-ce que c'est que le corps dans la perspective où je respecte les sensibles propres. La vision philosophique, la vision scientifique. Alors, il y a un lien. Jamais, comprenez bien, jamais les sensibles propres n'existent sans les sensibles communs. Jamais. Les sensibles propres existent toujours dans les sensibles communs. Toujours. Je ne peux pas les séparer. Mais je peux les saisir dans leur originalité propre. Mais jamais un sensible commun existe sans sensible propre. Et jamais un sensible propre n'existe sans sensible commun. Donc au niveau existentiel, les deux sont liés. Au niveau du vécu, les deux sont liés. Mais je peux très bien parler de la lumière que je vois, que je sens, et analyser la rapidité de la lumière, le mouvement de la lumière. Je peux. Ça fait deux aspects tout à fait différents. Je peux demander à un peintre de me parler de la lumière. Je peux demander à un savant de me parler de la lumière. Deux discours tout à fait différents. Il y a deux discours différents. Il faut respecter ça. Il faut respecter le discours du philosophe et les discours du savant. Il faut comprendre que le discours du philosophe va s'appuyer, lui, sur les expériences externes dans ce qu'elles ont, oui, de sauvage, de direct. Et que le savant, lui, se développe de plus en plus du côté de cette connaissance d'analyse. De plus en plus. Il y a donc là deux points de vue complémentaires qui ne s'opposent pas si le philosophe est loyal dans sa recherche et si le savant est loyal dans sa recherche. Il n'y a pas d'opposition. Mais j'atteins quelque chose, un domaine propre, tout à fait propre. Les sensibles propres, je pars de là. Je peux aller plus loin. Grâce aux sensibles propres, le philosophe va être très attentif au jugement d'existence. Ceci existe. L'homme existe. Le corps existe. Tandis que le savant ne va pas tenir compte de ça. C'est bien évident. C'est pas si évident de savoir ce que c'est que l'exister, ce que c'est que l'être. Et le savant cherchera les réactions, le mouvement, l'action et les réactions. Il cherchera les relations, les lois constantes qui sont des relations. Vous voyez, là il y a deux pistes de recherche. Troisième recherche, le croyant. Le croyant, il part de la foi. Il part de la révélation. Et il s'appuie sur la révélation. Mais il sait justement que cette révélation qui m'est donnée dans la Bible, cette révélation qui est faite par Dieu, je parle du croyant chrétien, cette révélation qui est donnée par Dieu, Dieu se sert d'un langage humain. Dieu n'a pas inventé une nouvelle langue. Il aurait pu le faire. Si on avait eu un conseil à donner au Saint-Esprit, on lui aurait dit, peut-être, ce serait pas si mal. de nous donner une nouvelle langue. Parce qu'alors les chrétiens entre eux parleraient une langue que personne d'autre ne comprendrait. Alors au moins, ça vaudrait le coup d'être croyant. On aurait une nouvelle langue acquise gratuitement, infuse. Eh bien non, non. C'est vrai, l'Esprit Saint s'est servi d'hommes qui parlaient l'hébreu, qui parlaient le grec, qui parlaient le latin. Mais aucune de ces langues n'a été un obstacle à la révélation. Et je crois qu'aucune langue n'est obstacle à la révélation. Dieu se sert de la langue des hommes. Vous savez, c'est en trois langues, hein, faut pas l'oublier. C'est inscrit Jésus, le roi des Jésus, le roi des Juifs. En trois langues. Là, il y a trois langues privilégiées, c'est vrai. Il y a trois langues privilégiées, il faut le reconnaître. L'hébreu, le grec, le latin. Et les documents officiels de l'Église continuent de s'écrire en latin. Officiels de l'Église continuent de s'écrire en latin. Toutes les encycliques s'écrivent en latin. Le pape les fait traduire. Quand il écrit en polonais, il demande qu'on les traduise en italien. Et les deux italiens ont traduit en français. On le traduit en latin, je veux dire. Si l'Esprit Saint se sert de la langue des hommes, il montre par là que l'intelligence humaine n'est pas en opposition vis-à-vis de la révélation. Il y a une coopération fondamentale de l'intelligence de l'homme et de la foi. Si l'Esprit Saint s'était servi d'une langue nouvelle, on aurait pu dire séparation totale du domaine de la foi et du domaine de la science. Du domaine de la foi, du domaine de la philosophie. Séparation totale. Ne cherchez pas à mettre des ponts, puisque l'Esprit Saint n'en a pas mis. L'Esprit Saint a mis un pont. Il s'est servi de la langue des hommes. Et à travers des années et des années, 2000 ans de révélation, 2000 ans de révélation, 4000 ans. C'est quand même merveilleux, hein, comme patience l'Esprit Saint. Servi du langage des hommes. Et il continue de se servir du langage des hommes, puisqu'il se sert du langage de l'Église. Et des hommes d'Église. Et c'est à cause de ça que la théologie peut exister. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie ? C'est mettre mon intelligence au service de la révélation, de la parole de Dieu. Vous allez tout de suite saisir. Il est dit dans l'Écriture, hein, cette parole si importante, Dieu est amour. Je prends cette ultime révélation. Il est dit aussi je suis. Deux extrêmes de la révélation. Dieu est amour, je suis. Je peux réfléchir sur ce qu'est l'amour. Comment Dieu peut-il dire « Je suis amour » ? Comment puis-je dire « Dieu est amour » ? Puis je réfléchis sur « Je suis ». Moi aussi, je peux dire « Je suis ». Je ne peux pas dire « Je suis amour ». personne d'entre vous, hein, même s'il aime beaucoup, va dire « Je suis amour, regardez-moi bien ». Non. Je peux dire « J'essaie d'aimer, je cherche à aimer ». Et je peux dire « Je suis ». Mais quand je dis « Je suis », je sais très bien qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui dit « De la même façon, je suis ». Ce qui prouve que mon « Je suis » n'est pas total. Il n'exclut pas l'autre. Tandis que quand Dieu dit « Je suis », c'est pas tout à fait la même chose. Je suis celui qui est. Ça, vous pouvez pas le dire. Je suis celui qui est. Il y a comme une sorte de réduplication, hein. Philosophiquement, on réfléchit sur l'être. Dieu est l'être premier. Vous voyez, pour comprendre cette affirmation « Dieu est amour », il est quand même bon de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Le philosophe réfléchit sur ce qu'est l'amour. Et à ce moment-là, l'affirmation « Dieu est amour » prend toute sa force. Quand je dis, quand Dieu dit « je suis », je peux réfléchir sur le verbe « je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence y a-t-il entre amour et être? Y a-t-il une différence? Dieu seul est bon. Jésus dit ça. Dieu seul est bon. Je peux réfléchir sur la bonté. Dieu est père. Je peux réfléchir sur la paternité. Vous voyez, le rôle du philosophe, c'est de réfléchir sur la signification profonde de ce langage humain dont Dieu se sert pour pénétrer plus avant dans ce mystère de la révélation. C'est l'intelligence qui veut aller le plus loin possible dans le sens de la parole de Dieu. Et alors, à ce moment-là, toutes mes affirmes, tout, à ce moment-là, cette connaissance théologique est au-delà de toute connaissance philosophique, de toute connaissance scientifique, puisque elle commence par la foi. Et la foi est une connaissance qui vient d'en haut. Une connaissance qui a quelque chose d'infini. La foi a quelque chose d'infini. En intensité. Et cet infini respecte pleinement toutes mes connaissances finies, toutes mes connaissances limitées. Voyez, je vois là comment il ne peut pas y avoir de conflit entre ce que la foi dit et ce que la science dit et ce que la philosophie dit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même lumière, ce n'est pas le même niveau d'intelligibilité. Ma foi reçoit la lumière d'en haut. Ma philosophie reçoit la lumière de mon expérience à partir des sensibles propres. Et la science reçoit la connaissance des réalités que j'expérimente grâce à ces instruments qui me permettent de mieux comprendre les sensibles communs et ce qui est le sujet de ces sensibles communs. Il y a trois niveaux tout à fait différents. Je pourrais faire la même réflexion par rapport aux mathématiques. C'est vrai que le corps mathématique, c'est quelque chose de particulier, n'est-ce pas ? Le corps vu par un mathématicien. Je demanderai aux mathématiciens d'ici de pouvoir dire une fois quelle est la vision du mathématicien sur le cœur, sur le corps, sur le cœur. C'est intéressant. Est-ce que c'est un cœur froid ? C'est un cœur chaud ? Est-ce que c'est un cœur tiède? Quelle est la dimension? du mathématicien sur le corps. Trois dimensions. Trois dimensions. Ça, d'accord. C'est ni la surface, ni le point. Ni la ligne. Trois dimensions. La ligne en se mouvant. Le point en se mouvant donne la ligne. La ligne avec une autre ligne donne une surface, et ainsi de suite. Et le corps, trois dimensions. Mais je respecte ce que dit le mathématicien. C'est une autre vision. Vous voyez, il y a divers degrés d'intelligibilité. Et ça, il faut le respecter tout de suite. Bon, une fois qu'on a bien précisé ça, je regarde maintenant tout de suite le regard du théologien, le croyant. Le croyant a une vision sur le corps de l'homme. Quelle est cette vision ? La Genèse. Dieu a façonné le corps de l'homme. C'est dit. Dieu a façonné le corps de la femme. C'est dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au sein langage métaphorique, poétique, c'est bien évident, quand vous lisez le début de la Genèse, hein, au point de vue scientifique, c'est pire que la philosophie. Hein. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pire, la philosophie quand même, petite recherche d'un langage, bon, ça se close, c'est tellement symbolique, c'est même mythique, c'est assez gros. Quand vous lisez au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, or la terre était un chaos, hein, sensible commun, hein, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il faut du temps avant que l'homme apparaisse. Hein. Il faut dégrossir un peu tout ça. Puis alors on arrive au sixième jour. Tout d'un coup, Dieu s'arrête. Faisons l'homme à notre image. Homme et femme à notre ressemblance. Puis un second récit. Alors lequel qu'il faut choisir ? Et le second récit est tout à fait différent du premier. Il est encore plus grossier. Le symbolisme est encore beaucoup plus fort. Parce qu'au moins le premier, on voit que la femme et l'homme sont dans un même regard de Dieu, se reposant, ça. Ils sont égaux. Dieu les regarde également. Et Dieu les aime également. C'est-à-dire dans le second récit, oh là là, Dieu n'a l'air avoir pensé uniquement à l'homme. Ça n'intéresse pas la femme, c'est l'homme. Mais le jour où l'homme s'ennuie, ah, Dieu commence à s'intéresser à la femme. Curieux, hein ? Vous voyez ça psychologiquement, hein ? Qu'est-ce que ça donne, hein ? C'est quand même très curieux, ça. Alors, heureusement que je ne fais pas de théologie à partir de la psychologie. Hein. Parce que vous voyez ce que ça donnerait. Comme vision. Non. C'est un langage symbolique. Merveilleux, étonnant. Le second récit. Dieu forme la femme à partir de l'homme. Et la femme est la benjamine. La dernière. Or, selon toute l'écriture, les benjamins sont plus aimés que les aînés. Ah ! Alors là, la femme se rattrape. Plus aimé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui. Est-ce que je peux accepter ces deux récits ? Oui, parce qu'ils sont symboliques. La science est univoque. La poésie est multiple. Elle est analogique. Elle n'a pas qu'un seul regard. Si Dieu parle un langage symbolique, c'est pas gênant de voir qu'il y a deux grandes traditions sur la création de l'homme et la femme. C'est pas gênant du tout. Ça se complète. L'une, c'est la tradition de la lumière, de la sagesse. L'autre, c'est la tradition d'amour. Premier récit, très ordonné. C'est pour ça que tous les évolutionnistes aime beaucoup le premier récit. Mais catastrophe, le second récit n'est pas du tout dans l'évolution. Ah, c'est gênant. Le second récit a l'air de se moquer de l'évolution. C'est tout à fait autre chose. Mais comme c'est intéressant, hein, de voir comment Dieu m'éduque. Comment Dieu veut me faire dépasser cette univocité scientifique. Et faire tout de suite comprendre un aspect qualitatif. Une première vision, la lumière. Et l'homme arrive au terme. Et la femme et l'homme arrivent en même temps, dans l'unité. Second récit, la hâte de l'amour. Dès qu'il y a de l'eau et de la rille, Dieu peut immédiatement former le corps de l'homme. Deux conditions sine qua non pour que le potier existe, de l'argile et de l'eau. C'est pas l'ADN. C'est l'argile et l'eau. Et à partir de là, il forme le corps de l'homme. Et le corps de l'homme, c'est pas l'homme. Ah, il y a un souffle dans les narines. Un souffle de vie. Quand il y a les narines, il y a un souffle, un souffle de vie. Et puis il laisse l'homme seul. Pendant un certain temps. Vous voyez, Dieu avait prévu que l'homme aurait comme grande tentation de s'isoler et de croire qu'il se suffit à lui-même. Alors, dans son amour, il veut lui donner cette expérience fondamentale. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Le vieil atavisme de l'homme, le vieil atavisme qui se ramène au premier homme, forcément, on entend ça dans les profondeurs. La psychanalyse n'est pas encore arrivée à ça. Mais elle y arrivera. On est remonté très loin. Arrivé, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et Dieu, par amour pour l'homme, crée la femme pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il la crée pour qu'elle soit à son service. Pas du tout. Pour qu'elle soit complémentaire. Alors, c'est magnifique de voir ce langage poétique. Voyez, la foi reçoit l'enseignement de Dieu dans ce langage symbolique, dans ce langage poétique, à travers un langage très particulier qui est un mythe. Et je vois tout de suite que le corps de l'homme est créé par Dieu. Et donc, il est bon. Et donc, le croyant ne tombera jamais dans cette erreur du manichéisme qui a existé, erreur philosophique qui a contaminé toute une tradition religieuse. Dire que le corps est mauvais. Que tout ce qui est sensible est mauvais. Et donc, il faut couper le corps de l'âme. Vous voyez, Platon, le divin Platon, il a dit quelque chose comme ça. Sans être manichéen, hein, c'est né après. Il a dit quelque chose comme ça. Il a dit le corps est tombeau de l'âme. Première définition philosophique. Le corps est tombeau de l'âme. La pierre tombale. Ce qui prouve que le corps, c'est une croix portée. Pierre tombale. Encore pire que la croix. La croix, elle est de bois. Et la pierre tombale est de pierre. Tout de suite. La révélation me révèle que le corps est bon parce qu'il est créé par Dieu. C'est quand même très beau ça. Et que le corps est une proximité avec Dieu puisque Dieu l'a façonné. est lié à la main de Dieu, est lié à l'action de Dieu, et qu'il y a une proximité de Dieu vis-à-vis du corps de l'homme. Une proximité étonnante. La proximité semblable à celle du potier qui façonne son argile. Il faut voir comment un potier façonne son argile. Il faut comprendre cette comparaison. Comprendre cette analogie très symbolique, très métaphorique, mais quand même, il y a un petit quelque chose. Alors vous commencez à comprendre le rôle du philosophe. Ne pas comprendre matériellement la parole de Dieu. Comprendre cet enseignement de Dieu dans sa finalité profonde. Pour ne pas confondre le langage symbolique de Dieu avec le langage scientifique des savants. Nous chanterons le Salve Regina, si vous voulez, pour terminer cette première journée de travail.